semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Yann Mince est le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale, partenaire, vous le savez, de l'émission. Il est notre invité dans ce nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec, bien sûr, la rédaction. Nous allons prendre la route des États-Unis, mais aussi de la Russie, par exemple. Dans la seconde partie, après le flash, rendez-vous avec l'actualité africaine, bien entendu, avec vos messages, destination l'Afrique du Sud ou bien encore le Tchad. Une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez, bien sûr, podcaster. Je vous le conseille vivement sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Yann.
Bonjour.
C'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans cette émission, à l'occasion de la publication de ce tout nouveau numéro d'Alternative Internationale, le numéro 67,
absolument,
intitulé La vie des autres. Et là, je reconnais votre style, enfin le style de votre magazine, de votre travail, et ce qui vous intéresse, c'est la vie du monde, mais pas simplement la vie politique, la vie économique,
non,
la vie des individus.
Oui, parce que la vie de nos concitoyens et de nos compatriotes et de nos amis d'autre bout du monde, compatriotes au sens où le monde est un...
Citoyen du monde.
Voilà, absolument. Elle est faite d'abord de choses complètement ordinaires, comme la nôtre, manger, dormir, s'habiller, faire la fête, vieillir.
Oui.
Voilà,
tout
un tas de choses qui ne sont pas du tout politiques, dont l'actualité des médias parle peu, parce que ce ne sont pas des choses exceptionnelles, mais qui sont le quotidien des gens, et qui montrent, et c'est ça qu'on a essayé de montrer dans le dossier, qui montrent à la fois des petites ressemblances et quand même beaucoup de points communs. Tout le monde mange à peu près de la même façon, dort à peu près de la même façon, mais effectivement, il y a des petites différences. C'est ça qui est intéressant, et ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est que, selon les contextes, évidemment, quand on est réfugié Rohingya au Bangladesh ou quand on est réfugié en Norvège, par exemple, de Somalie, on est dans une autre situation que quand on est une femme bolivienne ou quand on est, je ne sais pas, dans le dossier, il y a également des Kenyans, etc. Donc, à chaque fois des petites différences, à chaque fois aussi beaucoup de points communs, et c'est ça qu'on voulait montrer, la vie quotidienne à travers le monde. La mondialisation n'a pas tout arasé, toutes les différences n'ont pas disparu.
C'est ça qui est intéressant, on va parler des réfugiés dans cette émission, beaucoup, voilà, à l'occasion de cette journée mondiale, aujourd'hui, des réfugiés, on en a beaucoup parlé sur l'antenne hier, mais ce qui montre, votre dossier montre que la mondialisation n'a pas effacé les coutumes, les traditions, au contraire, quelquefois, on pourrait dire même le contraire.
Je pense que
nourrit.
Je pense que nous réinventons les petites différences. C'est-à-dire que, évidemment, nous ne vivons pas, et même quand on vit, je pense, au tréfonds du Népal ou au tréfonds du Malawi, on ne vit pas maintenant comme on vivait il y a 50 ans. La mondialisation a touché. Nous pensons aux moyens de communication, pensons aux portables, pensons à tout un tas de choses comme ça. Ça n'empêche pas que chaque société réinvente sa petite différence. Je pense qu'il faut dire, il faut insister sur le fait que ce sont des petites différences et pas des différences énormes. Fondamentalement, nous sommes tous pareils. Mais chacun réinvente ses petites différences. Et on voit effectivement que même en dépit de la mondialisation, en dépit de l'utilisation du portable, en dépit du fait que les fast-foods, on les trouve partout dans le monde, on ne se réapproprie pas ces technologies et ces nouveaux modes de consommation tous de la même façon. On réinvente notre façon de le faire.
Alors, la vie des autres, un tour du monde en 15 histoires et 30 romans, on va en parler pendant toute cette émission, Yann, mais on va commencer notre voyage dans l'actualité de la semaine en écoutant d'abord le Premier ministre, Manuel Valls. Il a décidé donc de passer en force pour faire voter la loi Macron sans vote grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Il a expliqué pourquoi mardi.
Les Français attendent des réformes, et notamment que les entreprises puissent créer de la richesse, de la croissance et de l'emploi, pour que notamment les PME, les TPE puissent embaucher. C'est ça la priorité des Français. La loi croissance et activité, la loi Macron, va libérer davantage notre économie, donner un coup de jeune à nos entreprises. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'elle s'applique vite. C'est la raison pour laquelle j'engagerai l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engagerai ma responsabilité, comme je l'avais déjà fait sur ce texte. Ce n'est pas un acte d'autorité, c'est un acte d'efficacité pour l'économie et pour les entreprises françaises. Il faut aller vite, il faut réformer. C'est ce qu'attendent les Français. Et moi, je suis à l'écoute et à l'attente de mes compatriotes.
Une semaine d'actualité. Merci de votre fidélité. Parlons maintenant des migrants et des réfugiés auxquels RFI a consacré son antenne à la veille de la journée mondiale des réfugiés. Aujourd'hui, samedi 20 juin, parmi les migrants, il y a beaucoup d'Érythréens qui fuient leur pays, qui vit sous le joug d'un régime totalitaire. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, environ 350 000 d'entre eux ont fui sur une population de quelques 6 millions d'habitants. Olivier Roger.
Comme des dizaines de milliers de ses compatriotes, Emmanuel Guimaï a préféré l'exil et ses dangers aux joues impitoyables du régime d'Asmara. Il a fui son pays en 2009, payant pour ce faire 1000 euros à un passeur.
D'abord, j'ai dû payer un passeur depuis Asmara. Le passeur nous a aidés à rejoindre une ville proche de la frontière éthiopienne. Et de là, nous avons dû marcher toute la nuit. Et au matin, nous avons franchi la frontière. Nous avons eu la chance de pouvoir la passer sans problème. Et ensuite, j'ai demandé l'asile en Éthiopie.
Emmanuel aurait pu s'inventer une vie en Éthiopie, le pays frère et le pays ennemi à la fois, mais l'Éthiopie redoute ces réfugiés qui pourraient bien être des serviteurs du régime d'Asmara. L'Éthiopie préfère donc consigner les Érythréens dans des camps.
Nous étions tous obligés de rester dans le camp. On ne nous autorisait pas à aller en ville et encore moins nous établir en Éthiopie. On devait rester dans le camp, les réfugiés n'ont pas le choix. Soit ils restent dans ces camps, soit ils continuent jusqu'au Soudan pour prendre la route périlleuse à travers le Sahara, jusqu'à la mer Méditerranée et enfin l'Europe.
Entre la prison à ciel ouvert qu'est l'Érythrée et les camps éthiopiens, les réfugiés choisissent souvent de poursuivre leur route. Le désert, la cruauté des trafiquants d'êtres humains, les viols, le travail forcé et enfin les dangers de la mer Méditerranée. L'Europe est loin, bien loin, et de moins en moins ouverte à ces années de l'exil.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mince, alors les réfugiés vont être au cœur de cette émission. On a consacré sur RFI hier une journée spéciale à ces réfugiés, à ces déplacés, à ces migrants. Il faut rappeler deux chiffres. Il y en avait 37,5 millions il y a 10 ans, il y en a quelque 60 millions aujourd'hui. Les conflits en Syrie, les conflits africains ont nourri effectivement ce flot de réfugiés, et notamment des réfugiés érythréens. Donc l'Érythrée qui est la dictature peut-être avec la Corée du Nord par excellence, si j'ose dire.
Oui, il y en a.
L'État totalitaire.
Il y en a plus beaucoup de ce modèle-là. Il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de jeunes érythréens, s'ils partent, c'est parce que le service militaire est interminable, très long, et je crois
même durée indéterminée.
Voilà, en Érythrée, ce qui incite un nombre de jeunes qui ne veulent pas vivre dans l'armée érythréenne et servir de main d'œuvre bon marché au régime à partir. Alors évidemment, c'est pas du tout le même genre de situation que ce qu'on trouve en Syrie ou que ce qu'on trouve en Irak ou encore que l'Afghanistan ou ce qu'on trouve dans des pays qui ne sont pas en dictature, mais où c'est plutôt l'absence de perspective économique qui pousse des gens. Il faut bien voir que le phénomène migratoire est très complexe. Ces jours-ci, on parle beaucoup des demandeurs d'asile parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Syriens qui sont dans le flux des migrants. Mais il y a aussi des gens qui viennent de toute autre situation, et notamment de migrants économiques, ce qui rend d'ailleurs la situation extrêmement complexe d'un point de vue juridique, parce qu'évidemment ceux qui
alors
sont
ça c'est le thème de votre éditorial,
demandeurs d'asile et ceux qui sont migrants économiques ne sont pas confrontés aux mêmes lois, aux mêmes règles internationales.
Et l'Europe s'interroge, que faire de ces migrants, visiblement une Europe divisée une fois de plus.
L'Europe est divisée, d'une part parce qu'il y a un règlement un peu absurde qui s'appelle Dublin 2, qui fait que un demandeur d'asile, peut être renvoyé par un pays européen dans le pays dans lequel il a mis le pied d'abord. Mmh. Évidemment, ceux dans lesquels la plupart des demandeurs d'asile mettent le pied d'abord, ce sont ceux qui sont sur les bordures de l'Union européenne, la Grèce, la Bulgarie, l'Italie, on en parle beaucoup en ce moment-ci. Donc, ils sont censés, ces pays-là, examiner la demande d'asile et si le demandeur d'asile file vers un autre pays, il peut être renvoyé vers l'Italie. Donc on a une espèce de règlement qui fait qu'on peut se renvoyer comme ça des demandeurs d'asile, les pauvres gens qui ont réussi à venir d'ici. Mais à mon sens, le problème principal, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut que les demandeurs d'asile prennent tous les risques pour venir jusque sur le territoire européen pour déposer leur demande d'asile. Et la question que j'évoque dans mon éditorial, c'est justement ça, c'est de savoir s'il ne serait pas possible d'examiner ces demandes en amont et par exemple que les demandes des Syriens soient examinées là où ils sont aujourd'hui, en Turquie, au Liban ou en Jordanie, ou par les ambassades ou par les consulats européens, plutôt que d'obliger ces gens à traverser la Méditerranée, à payer des sommes folles à des passeurs, à risquer 1000 morts pour pouvoir arriver jusqu'ici, poser le pied sur le sol européen, quand ils y arrivent vivants, et enfin pouvoir déposer leur demande d'asile. Pourquoi ne pas leur permettre de le faire en amont? Ça pose d'autres problèmes, ça pose des problèmes de garantie juridique, ça pose des problèmes d'accès, ça pose des problèmes, évidemment, il faut des fonctionnaires dans les consulats, etc. Mais ça me semble préférable, plutôt, avec tous les inconvénients que ça, plutôt que de faire cette espèce de tri cynique qui consiste à dire, si vous arrivez vivant jusqu'ici, on examinera votre demande, et si vous mourrez en route, eh bien, tant pis pour vous.
Suite d'une semaine d'actualité, Yann, et nous allons de Washington à Moscou, de l'Amérique en Russie. 9 personnes ont été tuées mercredi soir par un jeune homme blanc qui a ouvert le feu dans une église fréquentée par la communauté afro-américaine Charleston en Caroline du Sud. Le jeune homme a été arrêté quelques heures après. Correspondance jeudi de Jean-Louis Pourté.
Dylan Ruff, un jeune blond de 21 ans, n'a opposé aucune résistance au moment de son arrestation. Il a été transporté en fin d'après-midi à bord d'un petit bimoteur en Caroline du Sud pour y être inculpé. Il était revêtu de la tenue traditionnelle des prisonniers, une combinaison à grosses raies noires et blanches. Il était enchaîné à la ceinture et au poignet. Il portait aussi un gilet pare-balles. Une vidéo diffusée par CNN le montre en train de participer à une discussion sur la Bible dans le temple Emmanuel. Il a déclaré son intérêt pour le livre saint et est resté pendant une heure avant de sortir son arme, un revolver de calibre 45 que lui avait offert son père en avril pour son anniversaire. Selon une survivante, il aurait rechargé son arme à 5 reprises et expliqué qu'il devait les tuer car il violait les femmes blanches et avait pris le contrôle des États-Unis. C'est la publication de sa photo et du numéro de la plaque de son véhicule qui ont permis sa rapide arrestation, un fleuriste l'ayant reconnu et alerté la police. Dylan Ruff était un assez mauvais étudiant. Il avait aussi été arrêté 2 fois, l'une pour possession de drogue, la seconde pour violation de propriété.
Suite d'une semaine d'actualité, Yann, à Moscou cette fois donc, et la décision de Vladimir Poutine de doter la Russie de nouveaux missiles intercontinentaux. Il y a comme un parfum de guerre froide dans la capitale russe mardi, Muriel Pomponne.
Ce n'est pas un hasard si le président russe a fait cette annonce au lendemain des révélations du New York Times sur un projet du Pentagone de stationner des armes lourdes dans les pays de l'Est de l'Europe. Concrètement, cela signifie essentiellement les pays baltes. Si le projet américain est validé par la Maison Blanche, des armes lourdes américaines seront donc déployées dans un pays ancien membre de l'Union soviétique. Symboliquement, c'est difficile à accepter pour les Russes. Le président Poutine a d'ailleurs précisé à son homologue finlandais qu'il recevait hier en fin de journée, c'est l'OTAN qui arrive à nos frontières et non pas nous qui allons quelque part. Les Russes estiment qu'ils ne violent pas les traités de non-prolifération nucléaire, mais que ce sont les Américains qui ne respectent pas leur signature en déployant des missiles en Pologne et en Roumanie. Nous serons obligés de pointer nos armes vers les territoires d'où provient la menace, a encore précisé Vladimir Poutine. Toutefois, et le président russe le dit lui-même, il s'agit plutôt de signaux politiques qui sont adressés à la Russie. Alors, la Russie adresse aussi un signal politique aux États-Unis avec l'annonce du déploiement de ces missiles. Il s'agit de missiles intercontinentaux qui constituent plutôt une force de dissuasion qu'une menace réelle.
D'autres informations internationales en bref avec vous, Lauren Bess.
La campagne présidentielle américaine a commencé. Du côté républicain, 2 nouveaux candidats cette semaine. Tout d'abord, Jeb Bush, 62 ans. Il s'est lancé dans la course. Ce fils et frère d'ancien président a fait ses armes en tant que gouverneur de Floride. Mardi, c'est Donald Trump, mania de l'immobilier et figure de la télévision américaine, qui a annoncé sa candidature. À 69 ans, Trump est le 12e candidat déclaré aux primaires républicaines. Côté démocrate, ils ne sont que 4, avec Hillary Clinton en tête de file. Le pape François a publié ce jeudi son encyclique sur l'environnement. Dans ce document de 192 pages, le pape apporte une nouvelle fois son soutien aux scientifiques, affirmant que le réchauffement climatique est dû principalement à l'activité humaine et à l'utilisation des énergies fossiles. Il y ajoute que les pays développés ont une responsabilité particulière quant à l'inversion de cette tendance, une lettre qui a provoqué une vive réaction chez les climato-sceptiques, notamment aux États-Unis, où le pape est attendu en septembre.
En Égypte,
la justice l'a confirmé, Mohamed Morsi, l'ancien président issu des Frères musulmans, est condamné à mort. Il a été condamné pour son implication dans une évasion de prison massive pendant le soulèvement de 2011 et la planification d'attaques contre la police. Destitué en 2013 par l'armée, Morsi avait été le premier président élu démocratiquement en Égypte. En Palestine, le Premier ministre Rami Abdallah a remis mercredi la démission du gouvernement d'union au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le Hamas a par ailleurs annoncé qu'il rejetait tout changement unilatéral sans consentement de toutes les parties. Cette décision témoigne de l'échec de la réconciliation avec le Hamas.
Enfin, Lauren, en Turquie.
L'ancien président et Premier ministre Süleyman Demirel est mort mercredi à 90 ans dans un hôpital d'Ankara. Demirel avait gouverné la Turquie pendant plus de 11 ans à la tête de 7 gouvernements.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mince, le rédacteur en chef de l'excellent magazine Alternative International. Je le dis à chaque fois et je le pense, avec cette belle couverture, et ça vient juste de sortir, à La Vie des Autres, un tour du monde en 15 histoires et 30 romans, version papier, version numérique, il faut
absolument
le préciser
sur
aussi,
sur
tablette. Alors, les États-Unis, c'est une étape incontournable dans notre revue chaque semaine, alors là, avec 2 choses, Charleston, une nouvelle tuerie.
Ce qui est terrorisant, c'est de penser que un jeune homme qui se prétend bon chrétien, qui lit la Bible, qui visiblement passe quelque temps à la commenter, tienne des propos pareils et soit capable d'actes pareils. Alors évidemment, c'est comme toujours, on a tendance à penser, et je fais un parallèle avec l'islam, que c'est uniquement chez les musulmans qu'une mauvaise lecture du Coran ou qu'une lecture partielle ou partielle du Coran amène à des actes. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui tirent de la Bible, et notamment de la malédiction des fils de Cham, le fait que les Noirs seraient une race inférieure, maudite, etc. On voit bien les propos de jeune homme qui dit que les Noirs violent les femmes blanches et qu'ils ont pris le contrôle des États-Unis sous prétexte, je suppose, que Barack Obama est métisse. On voit bien que l'enfermement idéologique, l'enfermement politique, à base religieuse, il peut exister dans toutes les religions et pas seulement dans l'islam, et ça me semble important de le rappeler.
Alors ça, c'est la société américaine. Parlons un instant de la future élection présidentielle. Lauren Bess le disait un instant, plus de 10 candidats côté républicain à ce jour.
Oui, beaucoup de candidats côté républicain, peut-être aussi parce que beaucoup de gens côté démocrate savent qu'à partir du moment où Hillary Clinton se présente, ça sera difficile de la contrer. D'une part en raison de sa popularité, d'autre part aussi en raison de sa capacité, et c'est important dans les campagnes américaines, à ramasser de l'argent pour faire sa campagne. Elle en a personnellement, elle a les capacités d'en attirer beaucoup. C'est beaucoup plus disputé côté républicain. C'est aussi disputé parce que dans le camp républicain, il y a des divisions idéologiques. Le camp républicain se balade depuis des années entre la tentation de la droite qui est le Tea Party et la tradition ancienne du Parti républicain qui était beaucoup plus centriste. Et effectivement, on voit un éventail de candidats qui vont probablement s'échelonner là-dessus avec ce phénomène un peu étrange pour les États-Unis parce qu'on n'est pas habitué à ça, des dynasties. On a Hillary Clinton qui se présente, dont le mari a été candidat, et on a Bush dont le frère et le père ont été eux-mêmes présidents, pas seulement candidats mais présidents, et Clinton a été président. La seule dynastie un peu comparable, c'est Kennedy, mais qui n'a eu qu'un président
et ça
s'est mal terminé pour le suivant, et il y a eu quand même Ted Kennedy qui a été un grand sénateur. Donc même dans un pays aussi peu monarchique, aussi peu aristocratique en principe que les États-Unis, avec toujours cette idée que n'importe qui peut grimper jusqu'au sommet, on a quand même des dynasties politiques relativement enracinées aujourd'hui.
Alors après Washington, Moscou, Yann, et cette décision de Vladimir Poutine de montrer ses muscles une fois de plus face à l'OTAN, face à ce qu'il considère comme une provocation de l'OTAN.
Oui, alors on est face à un geste américain d'abord qui vise à rassurer les pays de la ligne de front, je dirais, aujourd'hui, face à la Russie, c'est-à-dire en gros la Pologne et les Pays-Baltes, qui sont les pays vraiment inquiets de ce que pourrait tenter Vladimir Poutine la prochaine fois, s'il tentait quelque chose. Ces pays-là ont eu l'impression pendant un certain temps que les États-Unis se désintéressaient un peu de l'Europe au profit de l'Asie, et c'est effectivement le shift, comme on dit aux États-Unis, le tournant vers l'Asie. En même temps, depuis la crise ukrainienne, on voit que les Américains, et les Européens aussi, mais les Américains, les Européens de l'Ouest, je veux dire, sont obligés de se réintéresser à ces pays proches de la Russie, dont on pensait que globalement ils étaient à peu près tranquilles. Avec l'affaire ukrainienne, on sent que non. On voit de nouveau un intérêt, pas tellement en France où on en parle peu, mais dans les autres pays d'Europe pour l'OTAN, qui est une machine dont on avait l'impression qu'elle était un peu en sommeil ou qu'elle servait pour l'Afghanistan des aventures lointaines. Là, on se dit, ben voilà, peut-être que ça va resservir face à la Russie. En même temps, j'ai du mal à croire que Poutine tenterait une aventure frontale face à l'OTAN. Il a en revanche assez malin en mettant des missiles nucléaires sur le devant de la scène de nouveau, parce qu'il fait peur, c'est la menace, c'est moins la menace conventionnelle que pourrait représenter l'armée russe, encore qu'elle est nombreuse, 700 000 hommes je crois, mais surtout la menace nucléaire. Je ne crois pas qu'on en viendrait là, et ce qu'a montré Vladimir Poutine en Ukraine, c'est qu'il n'aime pas les guerres frontales, il aime les guerres non dites, où on envoie des troupes sans uniforme identifié, on envoie des gens en prétendant que ce ne sont pas des militaires, ce qu'il a fait en Ukraine, et ce qu'il a fait dans une certaine mesure aussi en Géorgie en 2008. Je ne crois pas beaucoup à la guerre frontale, je ne crois pas beaucoup à la guerre froide, franche, massive à l'ancienne. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour l'OTAN de se défendre face à la guerre que mène Poutine en Ukraine, qui est une guerre inavouée, non dite, pas franche, parce que là, effectivement, c'est plus difficile de l'incriminer.
Et face à lui, il y a toujours ces atermoiements de l'Occident, comme il y a ces atermoiements de l'Occident face à Daesh, pour reprendre le thème de l'article de la chronique de Jacques Amalric dans
Ce sont des problèmes très différents. Dans le cas de la Russie, on a affaire à un État, même s'il emploie des moyens qui ne sont pas ceux des moyens, les moyens habituels qu'employait la Russie jusque-là. Ce sont des moyens, je le disais, inavoués. Daesh, c'est autre chose. Daesh, c'est une tentative d'État. C'est une volonté de créer un territoire, de le contrôler et de contrôler de façon totalitaire. Moi, je trouve que de plus en plus, Daesh ressemble, on parlait tout à l'heure de l'Érythrée ou de la Corée du Nord, je pense que ça ressemble de plus en plus à ça. Une volonté d'avoir un contrôle total sur la vie des citoyens dans un territoire. Pas seulement une dictature, vraiment un régime totalitaire qui rentre dans la vie privée des gens.
Yann Mince, nous allons marquer une pause. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté quelques nouvelles de ces dernières heures, des nouvelles du monde s'entend. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour à 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Nous sommes en compagnie de Yann Mince, le rédacteur en chef du magazine Alternative International, notre ami Yann Mince. Dans un instant, nous partirons pour le Tchad, destination aussi l'Afrique du Sud. Rendez-vous avec vos messages. Et partons d'ores et déjà, Yann, en Afrique, dans le nord du continent, en Algérie, où le président François Hollande a effectué lundi une visite officielle. Florent Guignard.
Une amitié exceptionnelle entre la France et l'Algérie, c'est François Hollande qui le dit, et aussi une rencontre exceptionnelle, 2 heures d'entretien entre les présidents français et algériens. Abdelaziz Bouteflika porte les stigmates de son accident cérébral de 2013, le teint cireux équipé d'un amplificateur de voix, bougeant péniblement le bras. Alors comment va le président algérien? Réponse de François Hollande, je ne suis pas médecin, mais il m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Ses conseils et sa vision du monde sont extrêmement précieux. Dans la délégation française, on est dithyrambique sur le président algérien et ses capacités d'analyse sur la marche du monde. Et d'abord sur les sujets régionaux qui intéressent autant la France que l'Algérie, le Sahel et la Libye. On est aussi dithyrambique sur cette relation franco-algérienne qui revient de loin après la brouille sarkozyste. L'impulsion donnée par la visite d'État de François Hollande en 2012 semble porter ses fruits. Abdelaziz Bouteflika n'a même pas reparlé de la guerre d'indépendance, à la grande surprise de François Hollande, qui veut croire que désormais la relation entre Paris et Alger est tout entière tournée vers l'avenir, même si l'avenir économique de l'Algérie, en raison de la chute du prix du pétrole, apparaît aujourd'hui plutôt sombre.
Yann Mince, partons maintenant pour Vintimille, et toujours cette question des migrants qui veulent entrer en Europe, une Europe divisée face à eux, on en a parlé déjà. Reportage à la frontière entre l'Italie et la France de Juliette Gerbrandt.
Pont Saint-Ludovic, ancien poste frontière. La route est encadrée par la corniche de la Riviera et la mer. Une vingtaine de migrants crient leur détermination à entrer en France, assis sur le parapet sous le soleil. Nous ne repartirons pas, nous devons passer. Où est l'Union européenne? Où sont les droits de l'homme? Derrière eux, sur les rochers, 3 personnes somnolent à l'ombre d'un maigre arbuste. En tout, ils sont 100 à camper sur ces blocs de pierre, là où la police ne peut pas venir les chercher. Mohamed, 28 ans, dit qu'il a fui le Soudan.
J'ai essayé 3 fois pour aller en France et ils ont me retourné quand même. J'ai fait 4 jours ici. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Il n'y a rien changé. Si, il y a des manger, il y a des boire, n'est pas manqué de quelque chose, mais nous voulons seulement aller.
Les volontaires des Croix-Rouges françaises et italiennes distribuent de l'eau, de la nourriture, posent un pansement en cas de besoin. L'organisation est pratiquement la seule à s'occuper d'eux. Avec la générosité des habitants, précise Alain Bianchi de la Croix-Rouge de Menton.
C'est extraordinaire, on est fourni en permanence. On n'a rien eu à acheter, tout a été fourni par les gens.
Des habitants mobilisés qui viennent aussi dire leur colère, comme ce monsieur aux cheveux blancs qui passe ses journées auprès des migrants avec sa pancarte « Citoyen du monde et français, j'ai honte ».
Alors, en cette journée mondiale des réfugiés, parlons des migrants africains précisément. Environ 280 000 d'entre eux seraient entrés illégalement en Europe depuis le début de l'année. Pinetta Diane.
Principale raison du départ des migrants, la crise économique. Bon nombre d'entre eux fuient la précarité et la détérioration des sols qui rendent l'agriculture plus complexe, explique un chercheur. Par ailleurs, les personnes fuient les zones en conflit. Au milieu des années 2000, énormément de migrants convergeaient vers les zones côtières, notamment au large du Sénégal et de la Gambie, pour embarquer dans des pirogues qui avaient ensuite pour destination les côtes italiennes et espagnoles. Mais la mise en place de la surveillance des côtes, avec notamment le programme Frontex, a quelque peu découragé les passeurs. Pour échapper au contrôle maritime, de plus en plus de migrants empruntent les routes. Il y a notamment l'axe Dakar-Nouakchott-Ouadibou-Oujda. D'autres, à pied ou à bord de véhicules, transitent par le Niger pour s'engager dans une traversée souvent difficile du Sahara. Leur objectif, la Tunisie ou la Libye, d'où ils embarquent ensuite dans des bateaux pour traverser la Méditerranée. Des organisations locales de la société civile prônent pour leur part une conférence euro-africaine afin de faire un état des lieux de l'immigration clandestine. Ce type de rencontre permettrait, selon un expert, de mener une réflexion commune sur des solutions à ce problème.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mince, La vie des autres, un tour du monde en 15 histoires et 30 romans, c'est la une du numéro 67, pour être exact, d'Alternative. L'Algérie, ça vous inspire à comment? commentaire de la visite d'Éclair, de François Hollande en Algérie?
Ça illustre aussi deux choses à mon sens. Ça illustre un vieux compagnonnage entre le PS et le gouvernement algérien qui m'a toujours laissé un peu rêveur. L'absence de distance de la rue de Solferino par rapport au gouvernement, au régime algérien, je dirais, m'a toujours laissé un peu dubitatif. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, dans un Maghreb qui est très agité, qui est très troublé, et puis aussi dans un Sahel qui est troublé, je pense au Mali, je pense à la Libye, je pense à la Tunisie. Évidemment, l'Algérie apparaît pour les observateurs extérieurs, pour les puissances extérieures, comme un pôle de stabilité, voire un gendarme régional. C'est pas pour rien que les Américains, les États-Unis se sont rapprochés de l'Algérie. Ils y voient là un pôle qui peut éventuellement essayer de faire un peu la police. Alors, on voit les limites de la police algérienne dans l'histoire malienne, parce que les Algériens n'ont pas toujours été extrêmement efficaces dans le rapprochement des factions maliennes, même s'ils ont joué un rôle. Et puis, ils ont eux-mêmes été victimes à la menace d'attaques terroristes. Mm-hmm. Mais quand même, disons, dans un environnement maghrébin et salien mouvant, l'Algérie, avec tous ses inconvénients, toute la fragilité de son régime que rappelait Florent Guignard, parce qu'effectivement, c'est un régime qui tient sur la rente pétrolière. Vous enlevez le pétrole à l'Algérie, il n'y a plus rien. L'agriculture est en très mauvais état. Le régime n'a jamais vraiment laissé des industriels se développer. Pourquoi ? Parce que il s'agit de favoriser l'import-export dans lequel des gens du régime ont des intérêts, notamment probablement aussi des gens proches de l'armée, puisque c'est la sécurité militaire qui tient le pays. Et donc ça fait un pays très très figé, très fragile, en dépit du fait qu'il a beaucoup de pétrole, parce que effectivement, si les prix du pétrole baissent, il n'y a plus d'argent à redistribuer. Au moment des révolutions arabes, il y a eu un tout petit peu de manifestations en Algérie, assez vite réprimées. Ça n'a pas beaucoup pris, à mon sens, parce que les Algériens se souviennent de la guerre civile des années 90. Ils veulent pas revivre le chaos, l'agitation, etc. Et ils voient ce qui se passe en Libye. En même temps, ça a marché aussi parce que le régime algérien a distribué de l'argent. Le jour où le régime algérien n'a plus d'argent à distribuer, la jeunesse insatisfaite risque de se manifester de nouveau.
Alors, continuons à parler de l'Afrique. Yann, il y a beaucoup d'articles sur l'Afrique en général dans Alternative Internationale. Et là, on parlera tout à l'heure de Boko Haram. Il y a aussi un article que vous faites le point sur ce qui se passe au Burundi et cette fameuse question du troisième mandat du président de Nkurunziza.
Oui, en fait, on a voulu, à travers un article de Agnès Riquieri, qui était sur place à Bujumbura, mettre l'accent sur la milice du parti du président Nkurunziza, la milice des jeunes du parti, parce que c'est effectivement un des bras armés du régime pour la répression dans la rue. Et c'est probablement, alors que l'armée, aujourd'hui, dans une situation un peu étrange, après le coup d'État raté, je pense que le régime se méfie lui-même d'une partie de sa propre armée. En revanche, la milice du parti, elle, la milice des jeunes du parti, est à la disposition du président. Et dans un pays où il y a beaucoup de jeunes, parce que la démographie est ainsi faite, peu de travail, évidemment, c'est pas très compliqué d'acheter des gens, de les payer, de leur donner des armes et de leur faire faire la sale besogne du régime. Ce qui est intéressant, et ce que montre le papier de Yannis Riquieri, c'est que malgré tout ça, au sein même de cette faction des jeunes du parti, il y a des divisions et il y a une partie de ces jeunes, eux-mêmes, pourtant membres de la Ligue des jeunes du parti, qui étaient contre le troisième mandat. Aujourd'hui, ces gens-là sont un peu sur la touche et ceux qui ont le vent en poupe dans la rue, ce sont effectivement les durs du mouvement des jeunes du parti.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour le Tchad de Yann Mince. Le Tchad meurtri lundi par un double attentat revendiqué par Boko Haram. Plus de 20 morts à N'Djamena. Christine Muraté, mardi.
Selon des sources sécuritaires tchadiennes, il est un peu plus de 9h du matin à N'Djamena. C'est à bord d'une moto que deux hommes armés se dirigent vers le commissariat central. Selon un témoin joint par RFI, l'un des kamikazes actionne la bombe, provoquant de nombreux morts. Au même moment, dans un autre quartier de la capitale, un véhicule 4x4 aux vitres teintées arrive aux abords de l'école nationale de police. Le véhicule ressemble à s'y méprendre à ceux utilisés par des hautes autorités tchadiennes. Les vigiles laissent donc entrer le 4x4 dans la cour de l'école où sont rassemblés de nombreux élèves. Les deux assaillants sortent du véhicule et le font exploser. Immédiatement après, une Toyota berline placée à l'entrée du même bâtiment explose à son tour. Les terroristes arrosent alors les témoins de rafales de tir. Le bilan est très lourd. Au total, 27 morts, dont les 4 assaillants, et 101 blessés. La ville de N'Djamena est sous le choc. À la mi-journée, le Premier ministre se rend sur place et confirme l'ouverture d'une enquête. Des arrestations ont lieu. Selon des sources sécuritaires, le propriétaire du 4x4 qui a explosé à l'intérieur de l'école nationale de police a déjà été identifié. Ce sont des cellules dormantes qui auraient opéré. Hier soir, les contrôles aux entrées de la ville ont été renforcés.
Et le Tchad a annoncé avoir mené une expédition punitive contre des positions de Boko Haram. Que faut-il aussi retenir dans l'actualité africaine, Lorraine Bess ?
Le mois du Ramadan a commencé cette semaine au Burkina Faso. C'est dans un contexte particulier que les musulmans s'y préparent. Depuis l'insurrection populaire et la chute de Blaise Compaoré, le pouvoir d'achat des populations se dégrade. Le prix des denrées essentielles comme le sucre, le maïs et le mil est en hausse et les affaires tournent au ralenti pour les commerçants. Le mois s'annonce donc difficile pour de nombreuses familles. On parle beaucoup des migrants morts en Méditerranée, mais il ne faut pas oublier ceux qui perdent la vie dans le désert. Nouveau drame dans le nord du Niger cette semaine, 48 personnes ont été retrouvées mortes. Le premier groupe d'une trentaine d'individus a été retrouvé près d'un véhicule en panne. Leur disparition avait été signalée depuis plusieurs mois. L'autre groupe, mort de soif, a été retrouvé près de la frontière avec l'Algérie.
Au Rwanda.
Le FPR a déclaré ce week-end son accord de principe sur une réforme de la Constitution. Celle-ci permettrait au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Cette décision intervient alors que plus de la moitié du corps électoral rwandais a demandé par voie de pétition la modification de l'article 101 de la Constitution, un article qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux. Au Bénin, la campagne pour les élections municipales, communales et locales a démarré mercredi. Les élections auront lieu le 28 juin. Les citoyens éliront leurs conseillers municipaux à Cotonou, Porto Novo et Parakou, ainsi que les conseillers communaux dans les autres villes. Ces derniers choisiront à leur tour les maires, les conseils de village et de quartier pour les villes qui désigneront leurs chefs. Des élections de proximité décisives pour le camp présidentiel. Notez aussi que le Bénin a un nouveau gouvernement depuis jeudi, après la démission de 8 ministres.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mince, alors il y a beaucoup de choses dans ce que l'on vient de dire. Le Tchad d'abord, et évidemment, tout le monde le craignait, un attentat de Boko Haram.
Oui, Boko Haram a frappé le Tchad en disant, ce qui frappe c'est pas la première fois que Boko Haram frappe le Tchad, mais ce qui frappe tout le monde, c'est qu'il frappe la capitale, N'Djamena, et des lieux symboliques du pouvoir et des forces de sécurité. En même temps, on a moins entendu parler de ce qui s'est passé au Niger, où 38 villageois ont été tués, alors du coup, beaucoup plus près de la base Boko Haram au Nigeria, mais c'est effectivement de nouveau une action de Boko Haram qui est clairement dans une stratégie de terreur. Le nouveau président nigérian Buhari, qui est un homme du Nord, a décidé qu'il allait prendre enfin des mesures décisives.
Éradiquer,
enfin, en tout cas, c'est son intention. En tout cas, déjà prendre des mesures militaires un peu énergiques contre Boko Haram, ce qui était moyennement le cas de son prédécesseur Goodluck Jonathan. La difficulté, évidemment, c'est que les forces armées nigérianes ne sont pas réputées ni pour leur efficacité, ni pour leur comportement correct vis-à-vis des populations, qui a donc un passif à rattraper. La raison pour laquelle, effectivement, les armées du Tchad ou du Niger ou éventuellement du Cameroun sont venues prêter main forte d'une façon ou d'une autre, soit en intervenant directement, soit sur leur propre sol. Au Nigeria, c'est effectivement la faiblesse de l'armée nigériane. Si Boko Haram sent l'étau se resserrer, c'est sûr qu'ils vont tenter tout ce qu'ils peuvent pour frapper les alliés de Buhari, c'est-à-dire notamment le Tchad et le Niger singulièrement, mais aussi le Cameroun.
Et dans le dernier numéro d'Alternative Internationale que nous avons sous les yeux, vous consacrez un article à Boko Haram et le Cameroun.
Oui, c'est Véronique Aram qui est allée au Cameroun, qui fait un article, effectivement un reportage pour expliquer la charge que représente pour le Cameroun, d'une part, l'afflux de réfugiés nigérians qui viennent se réfugier, et puis directement aussi le risque d'attaque. Il y en a eu, on le sait, il y a quelques mois, très violente sur le sol même du Cameroun, avec des infiltrations. Et ce qu'elle explique dans le reportage, c'est que la frontière est extrêmement longue, que l'armée camerounaise n'est pas si bien équipée que ça pour la surveiller. C'est un défi logistique extrêmement important. Bon, il y a eu un peu d'amélioration dans l'équipement de l'armée camerounaise, je le comprends, mais c'est quand même un défi très important face à une force qui est très mobile, celle de Boko Haram, très difficile à identifier et qui peut assez facilement s'infiltrer dans le flot de réfugiés. C'est très compliqué de distinguer un réfugié d'un combattant. C'est pas forcément le cas dans d'autres contextes, mais là oui.
Alors le Rwanda, le président rwandais qui plus que jamais se dirige vers un troisième mandat.
Oui, et puis qui fait donner la pétition populaire, ou pseudo-populaire. Ça, c'est pas très compliqué, je pense, pour un régime comme le régime du FPR au Rwanda, d'avoir des signatures de beaucoup de gens et de donner l'impression que c'est un sursaut populaire. Évidemment, c'est assez ironique quand on pense qu'une partie des opposants au président Nkurunziza et à son troisième mandat sont allés se réfugier au Rwanda. Je comprends qu'ils y soient allés, c'est le pays le plus proche et le plus accessible, mais en même temps, c'est assez ironique de penser que du côté rwandais aussi, un prétendu enthousiasme populaire supplie le président Kagame de rester au pouvoir alors qu'il y est quand même depuis déjà très très longtemps.
Alors, vous êtes aussi l'auteur dans ce numéro d'Alternative Internationale dont vous dirigez la rédaction d'un dossier de 4 pages sur, avec des cartes, ça vous aimez bien les cartes, un dossier pédagogique, on apprend des choses, un dossier complet sur le Sahara occidental qui est un des dossiers qui traîne depuis des décennies et qu'on oublie, on finit par oublier.
On l'oublie, j'allais dire, on l'oublie parce qu'il y a relativement peu de morts. C'est un peu cynique ce que je dis là, peut-être. Mais c'est vrai que les conflits dont on parle en général dans l'actualité sont ceux qui font beaucoup de morts d'un seul coup. Or, ce qui est inquiétant, c'est que l'État islamique ou Al-Qaïda savent profiter de ce genre de conflits, savent les infiltrer, les conflits qui pourrissent, avec notamment des jeunes désespérés dans des camps qui attendent un règlement, qui subissent de la répression, qui sont fatigués, comme on dit en Afrique. Ouais. Eh ben voilà, ce sont des gens qui sont susceptibles de rallier des mouvements djihadistes, et Al-Qaïda notamment, mais l'État islamique aussi, ont su. C'est une vraie stratégie, faire de l'entrisme, comme on disait dans le temps pour les trotskistes, faire de l'entrisme dans ce genre de conflits. Récupérer des jeunes, et pour l'instant on n'a pas de preuves patentes, quoi que dise le gouvernement marocain, d'un engagement massif de jeunes sahraouis dans les rangs d'Al-Qaïda ou de Daesh, mais pensons au Mali. Au Mali, il y avait un conflit avec les Touaregs qui a duré très longtemps, dont les djihadistes ont profité. On peut craindre que ça arrive si rien ne se passe sur le conflit sahraoui. Or, clairement, la communauté internationale, en tout cas les grandes puissances, jouent le jeu du Maroc et laissent pourrir la situation.
Alors, à chaque fois que je lis votre magazine, Yann, je souligne, parce que je trouve ça fondamental, l'importance des cartes.
Ah ben, il y a tout un tas d'enjeux qu'on ne peut comprendre que quand on a la carte sous le nez, celui du Sahara occidental, à la fois pour comprendre ce qui est contrôlé aujourd'hui, la zone du Sahara qui est contrôlée par les Marocains, plus, ce qui est contrôlé par les Sahraouis, et puis aussi l'histoire, parce qu'il faut savoir ce qui se passait avant la colonisation, ce qui s'est passé au moment de la colonisation. Le Sahara occidental était un territoire espagnol, le reste du Maroc, l'essentiel, était contrôlé plutôt par la France. Ça rentre en ligne de compte. Comme on ne peut pas comprendre le conflit israélo-palestinien, par exemple, pour prendre un autre conflit, sans avoir la carte de la colonisation israélienne sous le nez, on ne peut pas comprendre la situation psychologique des Palestiniens, comme on ne peut pas comprendre l'exaspération à ce nombre de Sahraouis aujourd'hui face à la politique marocaine.
En plus, c'est beau une carte.
Et en plus, c'est beau si c'est bien fait. En tout cas, on essaye.
Ça fait voyager. Écoutez RFI, et vous avez raison, et singulièrement une semaine d'actualité. Nous allons revenir, Yann, sur le 25e sommet de l'Union africaine qui s'est donc achevé lundi en Afrique du Sud, en présence, et cela a fait grand bruit, du président soudanais Omar El-Béchir. Correspondance d'Alexandra Brangeon, mardi.
Pour l'Afrique du Sud, inviter Omar El-Béchir et lui promettre l'immunité est un acte de défiance. Mais lui permettre de quitter le territoire contre la décision de la Haute Cour va bien au-delà. Les réactions hier soir allaient de l'incrédulité à la colère. D'autant plus que l'avion transportant le président soudanais avait été déplacé d'un aéroport civil à un aéroport militaire. Pour Caroline James, porte-parole des ONG qui ont appelé à l'arrestation d'El-Béchir, il s'agit d'une entrave à la justice. L'affaire est désormais politique. Le gouvernement sud-africain va devoir s'expliquer. D'ailleurs, hier soir, Pretoria a indiqué qu'une enquête allait être ouverte. Alors pourquoi une telle défiance de la part du gouvernement sud-africain ? Tout d'abord parce qu'à l'instar de nombreux pays du continent, Pretoria remet en cause la CPI et ce qu'elle estime être un traitement injuste envers les dirigeants africains. Ensuite, parce que Pretoria défend la position suivante, l'Afrique aux Africains, dénonçant toute intervention extérieure. Et enfin, parce qu'à cet acte de défiance s'ajoute également un besoin de s'aligner sur le reste du continent. L'Afrique du Sud, accusée de manquer de solidarité africaine depuis les attaques xénophobes dans le pays, ne pouvait se permettre de se mettre à dos ses alliés africains.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire, évidemment, par courriel ou à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un bonjour aujourd'hui à Arthur à Sfax. Bonjour à Ndaï Fatou. Bonjour à Awalou Mohamed. Bonjour Pierre-Edouard Deldic. Écrit-il, comment peut-on comprendre le jeu entre le président El-Béchir et la Cour pénale internationale? Je vais poser la question dans un instant, Yann Mince. Bonjour à Taïrou Diakité depuis Mopti au Mali, fidèle auditeur de l'émission Une Semaine d'Actu. Merci, c'est moi qui vous remercie, Taïrou. Enfin, bonjour à Elamine Diem depuis Djilongia au sud du Sénégal, écrit-il. Étant fidèle auditeur, je me rattrape grâce à votre émission. Pourquoi la Cour ordonne-t-elle l'arrestation d'Omar El-Béchir? Mon salut à tous les auditeurs de RFI, particulièrement à Sali. Une semaine d'actualité, donc ce sujet des relations entre la Cour pénale internationale et le président Omar El-Béchir, président soudanais, et plus globalement avec l'Afrique, est un sujet qui revient constamment dans les messages de nos auditeurs.
Je pense que aux yeux des Africains, la CPI souffre d'un problème de timing. Ce que je veux dire, c'est que il y a eu d'autres tribunaux internationaux avant qui se sont intéressés à des non-africains. Je pense que peut-être que nos auditeurs africains devraient s'intéresser un peu plus à ce qu'a fait le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui lui ne jugeait pas du tout des Africains, mais jugeait Milosevic, Karadzic, enfin bref, oui. Tout un tas de gens qui étaient des Européens et qui avaient commis des massacres et des crimes horribles et qui ont été jugés pour ça. Simplement, ce n'était pas la CPI. Il y a eu ensuite le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a eu le tribunal sur la Sierra Leone, etc. Et est arrivée la Cour pénale internationale qui, c'est un fait, depuis le début, s'est surtout occupée d'Africains parce qu'effectivement, les principaux conflits du moment, à partir du moment où il est né, concernent l'Afrique. Mais il ne faut pas avoir une obsession africaine des magistrats de la CPI. Je pense que quand ils auront des dossiers suffisamment étayés pour s'attaquer à d'autres dirigeants que les dirigeants africains, ils s'y attaqueront. Donc, il ne faut pas prendre la CPI pour ce qu'elle n'est pas. Omar El-Béchir est poursuivi pour des crimes commis dans son pays,
au Darfour.
Il doit en rendre compte. Et je suis un peu déçu de voir que la grande démocratie du continent africain, qui est l'Afrique du Sud, continue
qui n'est plus tout à fait celle de Nelson Mandela.
Qui n'est plus celle, mais ça remonte à Thabo Mbeki, au prédécesseur de Zuma, qui avait déjà des discours anti-occidentaux un peu suspects, y compris sur le sida, où il laissait entendre que c'était une invention occidentale, en tout cas l'exagération, etc. Je pense qu'il ne faut pas que l'Afrique du Sud enfourche ce cheval-là un peu absurde de l'anti-occidentalisme primaire. On peut très bien critiquer la politique occidentale, et il y a plein de choses à critiquer. Mais pas là-dessus, et pas pour se solidariser avec quelqu'un comme Omar El-Béchir, qui est responsable de nombreux massacres dans son pays.
Alors, frappant, c'est que c'est quasiment l'Union africaine qui prend la défense aujourd'hui du président soudanais.
Oui, alors évidemment, il y a aussi une question simplement corporatiste. Il y a
et
plein de
la justice de sud-africaine qui avait décidé qu'il fallait que...
Après, la question de l'indépendance de la justice sud-africaine se pose, évidemment.
Se pose, oui.
On peut se poser la question. En tout cas, le président El-Béchir n'a pas attendu qu'on l'attrape, il est parti avant, ce qui veut dire qu'on l'a laissé partir. C'est vrai que c'est délicat pour le régime sud-africain d'enfermer un confrère, mais je pense qu'il y a aussi une solidarité corporatiste de chef d'État africains qui se disent, si je laisse juger un confrère, la prochaine fois, ce sera peut-être moi. Donc, c'est pas seulement une solidarité d'Africains, c'est une solidarité de chefs d'État africains. Et je ne crois pas que l'opinion publique africaine, que nos auditeurs, doivent se solidariser de despotes simplement parce que ce sont des despotes africains.
Ouais. Alors, on va terminer cette émission en feuilletant, en continuant à feuilleter le magazine, le dernier numéro d'Alternative Internationale. Donc, je reviens sur ce dossier qui est insolite, en fait, qui s'intitule « La vie des autres ». Comment, en fait, la planète, surtout les continents, vit au quotidien, comme on dit?
Oui, en fait, le dossier est parti d'une envie que j'avais de montrer le quotidien un peu partout. C'est une envie un peu comme ça, de changer un peu de ce qu'on fait, qui est souvent assez politique.
Alors, ce qui est bien quand on est rédacteur en chef, c'est qu'on peut traduire directement ses envies
C'est un des avantages. Et ensuite, j'ai feuilleté tout un tas de reportages photos qu'on avait déjà repérés depuis longtemps. Et j'ai sélectionné les photos par thème, naître, grandir, manger, s'habiller, etc. Et ensuite, j'ai réalisé ce que je savais déjà plus loin, que derrière chaque photo, forcément, il y a une histoire, il y a un contexte. Que la photo du rappeur kényan qu'on a sous les yeux en ce moment, il y a une histoire derrière, que la photo du berger au Népal, il y a une histoire derrière, la petite
de la danseuse
sud-africaine, les dames en Chine qui sont en train de manger toutes assises en rond, etc. Derrière, à chaque fois, une histoire qui dit quelque chose sur les individus qui la vivent, mais aussi sur le contexte, et qui dit des choses, mine de rien, au final, aussi sur la politique. En partant de la vie quotidienne, on peut arriver à la politique, on n'est pas obligé de partir de la politique uniquement par les élites, on peut partir aussi simplement par les histoires ordinaires. Et souvent, le contexte est majeur.
Et comme Alternative Internationale s'intéresse aussi à la culture, à chaque fois, vous prolongez ces articles avec des conseils de lecture.
Dans ce dossier-là, effectivement, moi, j'ai voulu qu'on puisse, que les lecteurs puissent découvrir des romanciers étrangers. Les lecteurs français, les lecteurs en France connaissent souvent bien la littérature française, ou en tout cas la pratique facilement.
C'est vrai qu'il n'y a pas que Guillaume Musso dans la vie.
Voilà, il n'y a pas que Guillaume Musso dans la vie, il y en a bien d'autres. Et donc, c'est aussi l'occasion de faire découvrir à nos lecteurs, qu'ils soient en France ou ailleurs, bien entendu, des romanciers de tous les pays. Et des romanciers de... Moi, j'ai redécouvert des romanciers moldaves, dont j'avais strictement jamais entendu parler, grâce à de talentueux confrères qui connaissent très bien la littérature étrangère et qui nous ont aidés à faire cette sélection, et qui par thème, effectivement, conseillent des romans japonais, mauriciens, argentin, que sais-je.
C'est vraiment passionnant, et vous parlez aussi, comme presque à chaque fois, de cinéma.
Là, en l'occurrence
avec Cannes.
Oui, en l'occurrence, c'est un dossier sur la difficulté pour un certain nombre de cinéastes de faire des films dans leur pays, à les diffuser, à les faire voir à l'étranger, mais parfois même, c'est plus difficile de faire voir un film dans son propre pays que de le faire voir à l'étranger. Jafar Pahlavi, par exemple, qui a fait le très beau film iranien Taxi. Taxi est vu partout dans le monde, parce qu'il a réussi à le faire sortir, mais est interdit pour l'instant en Iran. il a tourné clandestinement, il est interdit de tourner. Et c'est la difficulté d'un certain nombre de cinéastes à tourner et ensuite à diffuser, dont nous avons voulu parler, et toutes les façons qu'ils ont aujourd'hui de contourner la censure chez eux.
Alors, dans la censure dans des pays où la liberté n'existe pas, ou peu, mais aussi la censure dans des pays où la liberté est une réalité, comme aux États-Unis, mais où il y a une sorte aussi de censure, je dirais, économique presque.
Alors aux États-Unis, le système de cotation des films en fait est fait par une mystérieuse commission qui a été mise sur pied par l'industrie du cinéma. Et effectivement, tout ce qui est un peu abrasif, un peu subversif, un peu est assez facilement déconseillé. Donc ça veut dire que on a une espèce d'alignement vers le plus petit dénominateur commun, au risque d'avoir des films qui sont gentil, sympathique, mais un peu fadasse et pas très innovateur, peut-être.
Et c'est un spécialiste qui parle parce que vous êtes un cinéphile.
Oui, je crois.
Alors, on notait aussi un entretien sur le cinéma américain. Les Américains traquent le sexe, les Français la violence.
Oui, c'est le responsable, alors, du coup, de la commission qui, en France, s'occupe de la classification des films interdits aux moins de 12 ans, moins de 16 ans, etc., qui explique qu'effectivement, la commission américaine est plus axée, traque plus tout ce qui concerne la morale sexuelle et tout ce qui concerne ce qu'elle considère comme des déviations sexuelles, alors qu'en France, ceux qui s'occupent de la cotation sont plus inquiets de l'impact des images violentes et surtout des images de violence psychologique encore plus que matérielle sur les plus jeunes spectateurs des films, parce qu'effectivement il faut en être conscient, il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas faire voir à quelqu'un qui a 12 ans, ça peut avoir un impact tout au long de la vie, on sait qu'il y a des images qui nous marquent pour longtemps.
Merci Yann Mince, il faut lire donc version papier ou version numérique sur tablette Alternative Internationale, notamment le numéro 67 intitulé La vie des autres, un tour du monde en 15 histoires et 30 romans, avec ce slogan qui nous va bien aussi à RFI, le monde est l'affaire de tous.
Oui, absolument, nous essayons.
Une semaine d'actualité réalisée par Ludivine Amado. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée avec notre invité Laurent Fides. Nous parlerons du formatage des esprits, pour reprendre le titre de son livre, une émission qui ne sera donc pas politiquement correcte. Demain dimanche 17h10, bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI bien sûr.